tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain...
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Vous venez de passer beaucoup de temps au Québec. Vous avez fait une tournée, donc vous êtes allé dans plein de villes. Est-ce que vous voyez une différence si vous êtes en région ou si vous êtes ici à Montréal ou dans un grand centre comme Québec, de voir un peu le type de gens qui écoutent ou qui préfèrent vos chansons?
Vous savez, il n'y a pas une si grande différence que ça, parce que les gens qui vous font le métier de venir vous voir, généralement, ils sont heureux d'être là, quel que soit l'endroit où vous chantez. La différence n'est pas immense, non, mais il y a tout un réseau de théâtres vraiment jolis au Québec, en fait, qui sont des belles salles partout où on passe, c'est très agréable. Donc non, la grande différence, c'est de voir la nature et puis de traverser des villages dont certains nous semblent, à nous, Européens, des villages très américains, organisés comme ce qu'on voit depuis toujours dans les films, c'est-à-dire des villages avec les maisons le long d'une route comme ça, et la forme des maisons, pour nous, ça nous semble très américain, c'est très exotique.
Ça fait très Far West.
Oui, enfin, c'est ça.
Je sais que vous avez une longue relation avec le Québec, mais vous êtes venu beaucoup ici dans les années 70-80. Mmh. Quels sont les liens que vous avez gardés avec peut-être des artistes ici québécois?
Ces années 70, on s'en parlait encore hier avec l'organisateur, avec Paul. On se disait, mon Dieu, que ces années ont été différentes, comme ce sont des années à part. C'est des années à part sur le plan de la sexualité, sur le plan de la permissivité, sur le plan des drogues, sur le plan des... etc., etc. Et quand on a vécu ça, les gens de notre génération, et comme c'est vrai que moi je venais beaucoup à Montréal dans ces années-là, Montréal est pour moi lié beaucoup effectivement à ces années. C'était incroyable. On parlait même des endroits où on sortait. J'aimais bien sortir à l'époque... Et c'est normal, bon, j'aimais bien aller traîner le soir.
Vous vous êtes fait des amis ici au Québec?
Oui, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont restés des amis très chers. Bon, évidemment, à commencer par Robert Charlebois, que j'ai connu dès cette période-là. On était tous les deux à peu près au même niveau, on va dire. On était des artistes, je sais pas quand a commencé Robert, peut-être un tout petit peu avant moi. Mais mon premier disque est sorti en 68 et je pense que dès 69... Je suis venu au Québec, vous voyez, puisque ma maman, à l'époque, m'avait accompagné. Donc, c'était une période où elle était beaucoup avec moi. Donc, oui, évidemment, les gens que j'ai connus à cette période-là sont restés des amis. Ouais.
C'est fou, quand même, vous êtes arrivé dans une période hyper prolifique.
Oui, hyper prolifique, vous avez raison, sur le plan artistique, pour commencer. Il y avait une espèce de liberté qui se sentait dans tous les disques faits partout à ce moment-là. D'abord, on sortait beaucoup plus de disques que maintenant. Je pense que mes 10 premières années, j'ai dû sortir un disque tous les ans et demi. Ce qui est incroyable sur le plan de la création, parce qu'il faut quand même les inventer. C'est bon Dieu de chanson. Donc, c'était des années très, très riches, vous avez raison. Très prolifique, très inventive, je trouve. C'était moins formaté qu'aujourd'hui, mais au fait, les radios n'étaient pas les mêmes non plus à l'époque qu'elles sont aujourd'hui. Et toutes les musiques se mélangeaient, les nouveaux arrivants avec les anciens. Il y avait des programmateurs merveilleux qui connaissaient très bien leur métier, qui connaissaient vraiment la musique, qui avaient un spectre musical très large, qui étaient capables d'entendre des nouveaux jeunes qui arrivaient, mais aussi de respecter les anciens. Et il y avait un mélange de programmation musicale qui est évidemment disparu avec l'arrivée des radios FM. Et aussi, tout d'un coup, on va dire une espèce de spécialisation des radios pour des tribus comme ça de gens à qui on passe la musique qu'ils souhaitent entendre.
Ouais. Comment vous avez fait pour durer dans le temps? Tu sais, on parle aujourd'hui d'une époque qui est différente, où c'est plus formaté. Comment vous avez fait pour vous adapter?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que je suis mon propre compositeur et que j'ai fait ce métier pour une chose première qui est la musique, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un amour de la musique, un intérêt pour la musique, si vous voulez. Être connu n'était pas ce qui me... ce qui me faisait le plus plaisir au départ. Évidemment que ça me faisait plaisir et que on est content de se dire on a gagné de l'argent à connaître des filles quand on a 20 ans, on se dit ça. Bon, mais ça n'était pas le ressort premier. Je pense que le ressort premier, c'était de faire ma musique et de la chanter, parce que j'ai fait une première audition où on était en gestation véritablement dans ce qu'on écrivait. On n'était pas encore tout à fait prêt, je pense. Mais j'avais quand même fait une première audition. Le gars n'avait pas aimé mes chansons. Il m'avait rappelé, il m'avait dit revenez me voir, revenez me les jouer, etc. Il m'avait dit, je me souviens, est-ce que vous accepteriez de chanter une musique qui serait pas la vôtre? Et je lui ai dit non. Moi, ce que je veux, c'est chanter ma musique. Bon, donc c'était complètement inconscient, mais je pense que je savais vraiment ce que je voulais, en fait. Bon, puis la deuxième chose, je crois que c'est que j'ai eu de la chance, dès le début, que ça soit une musique un peu intemporelle, qui a des inspirations variées, qui mélange toutes ces musiques que j'écoute à longueur de journée. Maintenant, après, comment on fait pour s'adapter, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui était important dans la vie, c'est les chansons. Donc, quand on avait des bonnes chansons, on s'en sortait. Je suis peut-être un peu naïf, mais... Or, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé avec deux paroliers, dont un, je dirais, Étienne Rodagil et Maurice Vallet. Mais Maurice, il écrivait deux chansons, Momo, quand Étienne en écrivait 12. Bon, et on a travaillé pendant 10-15 ans. Qui fait que quand après, j'ai fait appel tout naturellement à d'autres paroliers... Il connaissait déjà mon travail avec lui. On pouvait m'aimer ou ne pas m'aimer, mais on pouvait pas nier que c'était atypique ce qu'on faisait, que on avait, sans le vouloir, créé une espèce comme ça de style de chanson. Et les autres paroliers m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes, évidemment, parce que ils étaient impressionnés par Rodagil. Et si vous voulez, il avait mis la barre très haut dès le début. Une chanson, quand elle est bonne, on doit pouvoir la faire au piano ou à la guitare toute seule, en la débarrassant de tous les trucs de la production. Parce que finalement, ce qui fait le temps qui passe et qui fait qu'une chanson peut être datée éventuellement, c'est la production, c'est le son de la batterie ou c'est la façon dont on... Mais la chanson elle-même, si elle est bonne, normalement, elle doit pouvoir traverser le temps.
Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais.
Vous voyez, je sais bien qu'il y a des nouvelles façons d'écrire. Que, bien sûr, il y a des artistes nouveaux, que j'appelle nouveaux, c'est-à-dire qui sont sortis récemment, qui aujourd'hui, et qui font de la chanson. Quand ils écrivent de leur chanson, on voit que le rap est passé par là. C'est-à-dire, la chanson est là, ça reste de la chanson, mais on voit qu'ils ont, de par leur génération, qu'ils ont écouté beaucoup de rap. Ça s'entend dans leur façon de construire leur texte.
Est-ce que vous, par contre, si vous avez à travailler avec un auteur qui est plus jeune, est-ce que vous êtes capable de marier le Julien Clerc que vous êtes?
Ouais. Alors là, déjà, depuis, on va dire... Déjà, depuis 2-3 albums, hein, je travaille qu'avec des gens plus jeunes que moi.
Ça se fait bien? Je veux dire, vous vous ça entendez bien avec les plus jeunes?
Rien, ça change strictement rien. Mais rien du tout. Non. Il peut... Ce qu'il y a, c'est que on va dire que c'est le format des chansons qui a un peu évolué. On osait plus à l'époque, moi, je pense. Moi, je ne réfléchissais pas du tout à l'époque. J'ai une chanson, prenons la chanson Partir, par exemple.
Partir. Partir, on a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure.
Ils sont partis, elle commence par une espèce d'intro qui est un peu longue. Ensuite, une partie lente. En plus, tout d'un coup, ça se met à augmenter de rythme petit à petit. On ne fait plus ça maintenant. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que ça, c'était plus... c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y avait un côté inventif. On faisait pas attention à ce que faisait. Et puis après, quand le temps passe, on se dit quand même... C'était bien d'oser faire des trucs aussi longs, d'oser... Bon, aujourd'hui, même moi, je vais me poser la question, je vais me dire aujourd'hui, même si j'ai cette envie-là, cette pulsion-là, on va dire, si c'est pour que ça passe pas à la radio, parce qu'ils vont trouver ça trop long, c'est con. Bon, et cependant, il faudrait passer au-dessus de ça. Tant pis, ça passe pas à la radio. Déjà, je passe plus dans tellement de radios que de toute façon, ça devrait pas être un problème, si vous voulez.
Même loin, loin de la région du cœur, n'importe où la peau change de couleur, partir avant qu'on meure, partir, comme les trains semblent quand on y pense, et les bateaux heureux quand on y danse, au partir sans rien dire.
Mais bon, c'est comme ça, les temps sont comme ça. C'est ça peut-être les plus grands changements par rapport à avant. Mais une bonne chanson reste une bonne chanson.
Ça, on revient d'ailleurs sur vos grandes chansons. Moi, j'ai mes préférées, évidemment. Ma chanson de karaoké par excellence, c'est « Cœur de rocker ». Qu'est-ce que Luc Plamondon vous a apporté dans votre carrière, outre les chansons qu'il vous a écrites?
Alors, il est arrivé à un moment bien précis de ma carrière, c'est-à-dire que où j'avais des envies, pour parler simplement, disons plus rock. Bon, je faisais écouter mes musiques aux auteurs avec lesquels je travaille habituellement. Aucun ne me ramenait quelque chose que je voulais, mais je savais pas ce que je voulais. ma vie, ça a toujours été de mettre de la musique sur des mots, mais jamais je n'ai demandé à des auteurs écris-moi là-dessus, très, très rarement écris-moi là-dessus ou rien, j'attends que je leur donne une musique quand c'est dans ce sens-là, parce que la plupart du temps c'est sur des textes que je fais, mais quand c'est dans le sens où j'ai écrit une musique qui n'a pas de mots, je leur donne et puis j'attends qu'ils me rapportent quelque chose. Bon, rien de ce qu'on me rapportait ne me plaisait, donc et je ne savais pas en même temps ce que je voulais. Et donc, c'est comme ça que tout naturellement, je me suis dit, mais là-bas en Amérique, il y a un francophone qui écrit sur les musiques comme ça, plus rythmées. Alors, je vais aller le trouver. Voilà comment ça s'est passé.
Et c'est devenu un méga hit.
Ouais, c'est une chanson de musicien. En fait, il n'y a pas tant de chansons dans la langue française pour les musiciens comme ça. C'est vraiment une chanson qui parle de l'état de musicien. Quoi.
Une autre qui est vraiment, selon moi, grandiose, c'est « Fais-moi une place ». Je pense que c'est la préférée de bien des gens.
C'est une chanson qui a pris du temps comme ça à arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Je l'ai écrite avec Françoise Hardy. J'étais en période de composition, comme pour l'autre. Mais quand je suis en période de composition, j'ai plusieurs thèmes à ma disposition. Et quand j'estime que j'en ai suffisamment, je fais venir les auteurs. Là, je me souviens, Françoise était venue à la maison, Françoise Hardy, et je lui avais joué plusieurs trucs. Rien ne lui plaisait. Françoise, vous savez, c'est une personne qui n'a pas tellement de filtre, donc elle n'hésite pas à vous dire ce qu'elle pense, et des fois ça peut être brutal. Donc là, rien ne lui plaisait. Vraiment, j'aime rien. Et je lui ai dit, écoute, il y en a une que j'ai pas finie, mais bon, ça commence comme ça. Elle m'a dit, c'est celle-là que je veux.
Évidemment. Mais ça fait une très, très grande chanson.
Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse, moi, mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint.
Comment vous faites pour être toujours en forme? Alors, je vous avais pour faire de la tournée. C'est exigeant pour le corps de faire de la tournée. Qu'est-ce qui vous garde?
La passion, je pense. C'est la passion. La passion et aussi la voix. C'est-à-dire que après ma voix et moi, on est passé par là. On est passé par des aventures. Et j'ai commencé, je chantais sans réfléchir. Bon, instinctivement, comme quelqu'un qui aurait été, je sais pas moi, tennisman, qui aurait eu un super bras, une vitesse de bras hors du commun, mais qui travaillerait pas. Bon, alors, au début, il va jouer, il va avoir aucun problème. Puis après, avec la multiplication des matchs, des trucs, finalement, il va atteindre, il va plafonner. Et il fera certainement pas la carrière qu'il souhaite parce que tout simplement, il travaille pas. Bon. Et ben là, moi, ça a été pareil pour ma voix. Donc, au début, j'ai chanté de façon complètement instinctive. Et puis après, avec la multiplication des tournées, plus les bêtises qu'on faisait à l'époque, les trucs qu'on se mettait, les produits qu'on pouvait prendre, etc. Petit à petit...
Les produits étant de la drogue. J'ai dit les produits étant de la drogue.
Oui, étant de la drogue, oui, j'ai pas pris 36 drogues, mais j'en ai pris qui faisaient pas du bien à la gorge. Hein. Bon. Donc, ce jour-là, on m'a fait comprendre de façon un peu appuyée que si je travaillais pas, j'allais perdre. Ben, j'allais perdre ce truc que m'a donné la mère nature, qui est un son de... Ça, c'est un truc qu'on n'acquiert pas. On l'a ou on ne l'a pas. Hein. Bon. Donc, moi, j'avais ce son de voix, encore une fois, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui était là et qui ressemblait à aucun autre. Et donc, j'ai commencé là, à travailler. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler ma voix, j'ai compris plein de choses, parce que travailler sa voix, c'est aussi comme... Ça ressemble à faire du yoga, vous savez, c'est aussi un travail sur soi-même. Quand vous savez que normalement les fonctions humaines, on le sait, baissent quand on avance en âge, mais figurez-vous que les cordes vocales, non. Et que si vous travaillez dans le bon sens, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas chanter vos chansons comme vous les chantiez quand vous aviez 20 ans. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas chanter... tout le temps que vous voulez.
Mais ça prend un régime de vie sain aussi, ça prend...
Oui, non, mais moi, j'ai pas à me forcer pour avoir une vie saine, si vous voulez, j'ai de la chance. J'ai jamais été sujet aux addictions, aucune. C'est un coup de chance, ça, bon. L'addiction n'est pas quelque chose qui m'a intéressé, si vous voulez. J'ai les pieds à peu près sur terre, étrangement. J'ai peut-être la tête dans les nuages, mais j'ai les pieds à peu près sur terre. C'est amusant de se dire qu'au bout de 50 ans de carrière, on peut encore être sur les routes. Et puis, on était l'autre jour ici, on déjeunait et on partait, je ne sais plus où, de l'autre côté, là-bas. On partait de Montréal, puis on avait beaucoup de routes. Et il y a, dans le même hôtel que moi, il y avait Big Flo et Oli, qui sont donc deux jeunes rappeurs, qui sont d'ailleurs... qui ont bien du talent, qui écrivent très très bien. Et puis, je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ils m'ont dit, on est passé là, c'était formidable, dans une salle à Montréal. Et moi, je leur dis, bah nous, on est là, on fait, je ne sais pas combien, 15 ou 16 concerts, et on en a 11, là, d'affilée, sans relâche. Ils m'ont regardé comme ça. Mais il y en a un qui a dit, ouais, mais les anciens, ils me disent, ils sont comme ça, ils sont habitués. Il a raison. On est habitués, on a été dressés à ça. Dès quand on avait 20 ans, j'ai des tournées qui n'en finissaient plus. Et c'était des tournées d'hiver, et c'était des tournées d'été qui tenaient plus, franchement. On passait plus de temps en voiture dans ces tournées d'été, dans ces années-là, dans les années 70, en France. Les tournées d'été n'en finissaient plus, il y avait 30 concerts qui suivaient, et on sillonnait littéralement la France, bon, on ajoute un peu la Belgique et la Suisse, mais on sillonnait, on faisait des kilométrages invraisemblables entre chaque concert. Donc on a été dressés à ça, on est une génération qui a été dressée à faire de la route pour chanter le soir.
Ouais. Est-ce que vous en avez besoin de l'amour de vos fans? Vous leur avez dédié un album.
Oui.
est-ce que pour vous, c'est une drogue?
Non, c'est pas du tout une drogue, mais ça a été une réflexion. Vous savez, à force, avec le temps, j'ai été touché par les preuves d'amitié ou d'intérêt pour mon travail. Au bout d'un certain nombre d'années, vous rentrez dans un club assez fermé, finalement, qui est le club des gens qui ont duré longtemps, et dont les chansons accompagnaient la vie des gens. Moi, au début, j'étais très inconscient, j'étais un peu, pas brutal, mais impatient, j'étais un jeune homme pressé, je crois. Et j'ai pas goûté à sa juste valeur, ça. Et puis quand je me suis rendu compte que ça durait, j'ai trouvé ça touchant. Je me suis dit, mais... oui, je me suis dit, tu te rends compte que tes chansons, elles veulent dire quelque chose pour beaucoup de ces gens. Et là, je me suis, je pense, radouci.
Est-ce que vous avez connu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des périodes plus douloureuses dans votre carrière?
Oui, parce que toujours, il y en a eu un qui a vendu plus de disques devant moi, vous voyez. Je suis quelqu'un qui a duré, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir à refaire mes preuves à chaque fois. Est-ce que c'est de la paranoïa? Je ne crois pas. Je crois que, de par nature, de par la personne que je suis, de par la musique que je fais, je suis moins profondément populaire que certains de mes collègues. Alors, j'ai mis du temps. Je trouvais ça injuste au début. Puis après, je me suis dit, j'ai compris que j'étais un peu quelqu'un à part. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu sur les routes parallèles. Moi, je me suis toujours estimé, par exemple, un enfant du rock. Mais j'ai bien vu qu'au début, j'étais classifié dans la variété en France, avec, à l'époque, ce terme de variété avait un mauvais côté. Bon. Et en même temps, dans la variété, il y avait des gens qui me regardaient avec des yeux ronds. Des gens qui chantaient « Je t'aime, tu m'aimes », etc. Et qui me voyaient arriver avec, je ne sais pas quoi, moi, le cœur volcan, poisson mort ou autre. Bon, donc, j'ai toujours eu un statut un petit peu à part. Et j'ai certainement été moins populaire toute ma vie que certains autres artistes de ma génération. Mais je suis toujours là 50 ans après.
C'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Julien Clerc. Ça a été une magnifique rencontre. J'étais un peu stressée au départ de vous rencontrer, mais finalement, ça a bien été.
Merci beaucoup. Merci.